Toutes les semaines, je t'apporte des trucs et astuces pour t'aider à booster ton français. Depuis le mois de septembre 2022, j'invite aussi des personnes inspirantes, natives et non natives, qui ont un lien de près ou de loin avec la langue française. J'adore ces interviews car égoïstement, moi aussi, j'apprends plein de choses et je termine toujours super inspirée et motivée. Je n'ai donc pas l'intention de m'arrêter là et j'ai une très longue liste de personnes que j'aimerais inviter dans le podcast et que j'aimerais que tu découvres. Et c'est maintenant que j'ai besoin de ton aide. Certains invités de ma liste sont un peu inatteignables et je suis une grande rêveuse et j'ai toujours espoir. Le mot « impossible » ne fait pas partie de mon vocabulaire. Plus ça a l'air impossible, plus j'adore. Alors, afin de pouvoir approcher ces personnes un peu inatteignables et un peu VIP, j'ai besoin de beaucoup plus de visibilité et là, c'est à toi de jouer. Si tu aimes le podcast Le Français avec Yasmine et que tu apprends des choses chaque semaine grâce à ce contenu et que toi aussi tu as envie d'être inspiré par des invités plus, j'ai besoin que tu laisses 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Plus le podcast a des étoiles, plus il sera visible, plus il sera téléchargé et plus j'aurai la chance d'inviter encore plus de personnes inspirantes et le tout encore et toujours 100% en français. J'ai quelques invités de rêve en tête, dont un, allez, je le partage avec toi, mais ça doit rester absolument entre toi et moi. Je rêve d'inviter un jour Bradley Cooper, je le prononce à la française, Bradley Cooper, l'acteur américain, il parle français et je rêverais de savoir comment il a appris le français et s'il continue de pratiquer. Alors aide-moi à inviter Bradley Cooper dans ce podcast en laissant 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Merci, merci, merci. Bienvenue sur le podcast Le Français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec Le Français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Ça fait des mois que je rêve de l'avoir dans le podcast et si tu es sur les réseaux sociaux et que tu consommes du contenu pour apprendre le français, tu l'as sans doute croisé. Il s'appelle Loïc Superville et il est trilingue. Il est français, il parle aussi espagnol et anglais couramment. En le suivant, j'ai réalisé qu'en plus d'avoir des vidéos super drôles où il se moque un petit peu de la langue française, il avait aussi une histoire et un parcours fascinant. Ses parents sont français, il est né au Mexique, il a grandi aux États-Unis et il a été scolarisé en français. Son parcours est similaire à beaucoup de personnes qui ont plusieurs nationalités, plusieurs langues ou plusieurs identités, ou qui ont des enfants aussi dans la même situation. Donc même s'il a été scolarisé en français, ce n'est qu'à l'âge adulte qu'il a vraiment habité en France. Alors, je voulais l'inviter pour plusieurs raisons. La première, mes élèves l'adorent et mes amis francophones aussi. La deuxième, je voulais qu'il nous raconte comment il a commencé son aventure sur les réseaux sociaux et aussi qu'il nous parle de sa carrière de comédien. Et dernièrement, comme lui, même si je suis française, j'ai vécu beaucoup d'années à l'extérieur. J'ai vécu plus d'années en dehors de la France qu'en France. C'est un point commun que j'ai avec lui et je voulais qu'il nous en dise un peu plus sur son expérience. Dans cette interview, il partage avec nous donc son histoire, ses projets professionnels en tant que comédien et on va aussi parler de nos doutes avec la langue française car même si on est natif, on doute aussi. Loïc est génial, l'interview est trop drôle, j'ai passé un super bon moment avec lui et je suis certaine que tu vas écouter cette interview d'une traite. Bonne écoute. Bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmine. Cette semaine, j'ai comme invité Loïc Superville. Salut Loïc.
Coucou, ça va?
Ça va et toi?
Ouais, je suis trop content. Bah, j'allais dire d'être là, mais je suis pas vraiment là. Je suis là vocalement, mais je suis content de pouvoir parler avec toi, de discuter.
Ça fait très longtemps que je veux t'avoir dans le podcast et j'ai beaucoup.
Ouais.
Ils me disent oui, il faut que tu l'invites et tout. Je dis oui, je sais.
Me
Je veux,
voilà.
moi aussi, je le veux dans mon podcast. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux
Yes.
te présenter?
Tout à fait. Alors, je m'appelle Loïc Suberville. En général, je me présente, ça dépend de à qui je parle en fait. Mais soit je me présente en tant qu'acteur ou en tant que youtubeur. Parce que youtubeur, en fin de compte, c'est un peu mon job, quoi. C'est ce qui paye le loyer, disons. Mais je suis acteur de base, j'ai fait des études de performing arts aux États-Unis, donc d'acting en gros. Et je fais beaucoup là de comédie musicale, je passe pas mal de casting, j'en fais pas mal l'année prochaine, là j'en ai quelques-uns prévus. Je suis à la base, alors un peu mon background de nationalité, je suis à la base, je suis né au Mexique, mais de parents français. Et quand j'étais très jeune, quand j'avais 2 ans, moi et ma famille, mes 3 autres frères et sœurs, on a déménagé aux États-Unis et j'ai vécu la majorité de ma vie aux États-Unis. Et c'est comme ça que je suis venu à être trilingue assez naturellement, quoi.
Tu peux passer d'une langue à l'autre sans aucun problème.
Ouais. Ouais, j'ai passé ma vie à faire ça, donc du coup, ça me vient assez naturellement.
T'as été scolarisé en quelle langue?
Donc, j'étais dans un lycée français à San Francisco, qui à l'époque s'appelait lycée français La Pérouse. Et après, ils ont changé le nom à lycée français de San Francisco. Je crois qu'ils pensaient que c'était un peu plus simple comme ça. Mais ouais, c'était vraiment, c'est un lycée. En fait, c'est vraiment le système d'éducation française aux États-Unis. Donc, les profs, ils sont 100% français, c'est des expats. Moi, en maternelle, c'est vraiment, il y a beaucoup de parents américains qui veulent emmener leurs enfants dans une école en soi qui est bilingue, mais qui est surtout française. Les seuls cours d'anglais, en vrai, c'était les cours d'anglais ou sinon les cours de American History ou American Math, parce que c'est quand même des maths un peu différentes. Mais bon, c'était pas des cours d'anglais comme on en a en France, quoi. C'était vraiment des cours d'anglais comme les cours de français en France. Parce que normalement, tout le monde est censé être totalement bilingue. Mais une fois que j'étais rentré au collège et au lycée, c'était vraiment, tu vois, on a passé le brevet, le bac, c'est censé être exactement le même système, sauf que les cours d'anglais, c'est pas standard, quoi. C'est vraiment juste comme aux États-Unis.
Et donc, étant donné que tu as fait ta scolarité en français, donc tu parles espagnol, tu parles anglais, est-ce qu'il y a une des langues qui est, où tu as l'impression que tu maîtrises mieux ou les trois langues sont au même niveau?
Non, quand même pas. Je maîtrise largement. Largement. Je maîtrise quand même mieux l'anglais et je pense que ça vient du fait que, je sais pas, je parlais beaucoup l'anglais alors que le français c'était soit à l'école, donc en fait j'ai beaucoup de vocabulaire, je sais pas, assez classique, disons, en français, alors que l'anglais c'était vraiment genre ce que je parlais dans les, disons, dans les rues, quoi. Tu vois, c'était
Casual English.
vraiment. Genre, je regardais des films en anglais, j'allais voir du théâtre en anglais. Et il y a aussi le fait que, soyons honnêtes, c'est plus dur à parler le français que l'anglais. Genre, moi, ayant vraiment grandi avec ces deux langues, je peux te dire sans aucun doute qu'il y a plus de règles et plus de choses à savoir. Tu vois, sans devoir y penser, juste des trucs, des règles qui ne sont pas vraiment des règles, et d'ailleurs c'est pour ça que j'en fais des vidéos, en français qu'en anglais. Donc j'ai tendance à faire moins de fautes en anglais, mais parce qu'il y a moins de fautes à faire, disons, tu vois, parce qu'il y a moins de règles. Donc je pense que c'est pour ça que c'est plus facile, mais aussi, tu vois, moi, beaucoup, le vocabulaire que j'ai un peu développé, qui est, disons, mon vocabulaire d'adulte, que j'ai maîtrisé, tu vois, quand j'ai commencé à m'intéresser aux politiques, quand j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie, des trucs comme ça. C'était vraiment le vocabulaire qui m'est venu quand j'étais dans mon adolescence, disons 17-18 ans, quand je suis allé à l'université. Et là, je parlais quasiment que l'anglais. Donc là, ces dernières années, c'était vraiment. Et après, quand j'ai déménagé, je pense que on va en parler après, mais j'ai déménagé en France il y a pas longtemps. Et ouais, je sens quand même qu'il y a des moments, genre quand je fais des, là, comme ce podcast ou des talks, je sens quand même que j'ai besoin de réfléchir à mes mots beaucoup plus qu'en anglais. Et que j'ai plus peur de la faute. Et ça aussi, ça vient du fait que, tu vois, pas que mes parents, mais les profs et tout ça, il y avait un shame par rapport aux fautes en français que j'avais pas en anglais. En anglais, tu vois, je fais une faute en anglais, c'est comme, ouah, t'es bilingue, genre, t'es français. Alors que si je fais une faute en français, c'est, ouah, t'es vraiment un américain, quoi. Et ça, j'aimais pas trop.
Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui se moquent. Par exemple, je suppose que tu connais cette vidéo de Jean-Claude Van Damme. ou qui dit par exemple qu'il a oublié des mots de français et donc il balance un mot en anglais, mais ça a fait un buzz, la risée de l'internet et de la télévision. Ouais, les gens se moquent de lui, alors que quand tu pars très longtemps à l'étranger, il y a des mots de ta langue maternelle que tu n'utilises plus et tu peux un peu réfléchir. Bien sûr.
Et il y a aussi, et je pense que ça a dû lui arriver à lui, il y a aussi un nouveau vocabulaire quand tu rentres dans un nouveau domaine, parce que je pense qu'il a quand même fait plus de cinéma, par exemple, aux États-Unis qu'en France, vers la fin de sa carrière, je pense. Hein. Après, je dis peut-être n'importe quoi. Mais je pense qu'il y a quand même un vocabulaire qui lui est venu sur les plateaux de tournage et tout ça, qui n'existait pas pour lui en français. Et donc, je pense qu'effectivement, mais moi, je suis exactement comme lui. Hein. Moi, si je pouvais parler tout le temps de manière bilingue, disons, où je passe d'une langue à une autre dans ma même phrase. Et d'ailleurs, c'est le cas avec beaucoup de mes amis. Beaucoup de mes amis du lycée avec qui je parle encore beaucoup, ils sont tous bilingues français, anglais. Et la majorité de ma vie, ça, je l'ai passé avec des gens qui parlaient les deux langues. Donc, je passais mon temps à passer du français à l'anglais quand le mot me venait plus facilement. Et ça, c'est quelque chose qu'il a fallu que j'apprenne à moins faire. Et ça, pour le coup, mes parents, ils étaient assez... pas sévère, j'ai pas envie d'utiliser le mot sévère, mais ils étaient assez... c'était très important pour eux que je parle français le plus possible, parce qu'ils savaient qu'en vivant aux États-Unis, du coup, tu vois, comme je disais tout à l'heure, je pratiquais beaucoup l'anglais, et donc j'avais plein de potes qui, à la base, sont français, avec qui je parlais plus anglais, parce que ça devenait juste plus facile. Mais il y avait aussi ce truc qu'on partageait beaucoup d'amis qui ne parlaient qu'anglais, et donc, avec eux, on pourrait que parler en anglais. Donc, du coup, ça devenait un peu compliqué de passer d'une langue à l'autre. On avait l'impression d'exclure des gens parce qu'eux, ils ne parlaient pas français. Et donc, du coup, le fait de vivre dans une langue qui n'est pas francophone, c'était plus facile des fois de juste rester à l'anglais. Et donc, je comprends ce truc de... Donc, des fois, j'ai juste envie de balancer des mots en anglais. Je dis beaucoup « ok, yes », tu vois, des trucs un peu... Mais c'est un peu aussi pour me la péter. Mais pas vraiment, tu vois. Mais c'est juste plus facile dans des moments un peu gênants de dire « yes, ok ».
Après, il y a la particularité de Paris où tu as les deux écoles. Donc, tu as les pro-anglicismes et les gens qui vont dire « Ah, mais putain, j'ai pas kiffé la vibe hier soir. » Et donc, tu vois, au lieu de dire « J'ai pas kiffé l'ambiance » ou quelque chose comme ça.
Ouais, bien sûr.
Et puis après, tu as ceux qui disent « Ah non, il faut absolument pas utiliser d'anglicisme » et tout ça. Mais c'est inévitable de toute façon. 100%. Et puis, surtout les personnes de notre génération, on utilise tous... Enfin, moi, je suis pro-anglicisme. Donc,
Bien sûr. Après, je pense que toutes les langues... Tout le temps, depuis le début des temps, depuis qu'on parle, ont évolué avec l'émergence et d'autres langues. Il y a plein de mots qu'on utilise en anglais qui maintenant sont devenus des mots dans le dictionnaire anglais qui sont des vrais mots, mais qu'à la base viennent soit du français, soit toutes les langues se sont un peu mélangées et c'est un peu, tu vois, c'est inévitable que les langues se développent et évoluent. À travers l'utilisation d'autres langues. Il n'y a rien de mal avec ça. Et je ne pense pas qu'on va perdre une langue parce que l'autre vient se faufiler, tu vois. Après, moi, je suis un peu partagé pour certaines choses, je pense.
Raconte-nous.
Je ne sais pas. En fait, moi, le truc, et ça n'a peut-être rien à voir, hein, mais il y a des mots qui sont des anglicismes qu'on fait et on me reproche beaucoup de le dire avec un accent américain. Donc, par exemple, pendant très longtemps, et je m'en suis défait de ça, j'appelais YouTube, c'est comme ça qu'on le dit, on dit YouTube. Moi, je l'appelais YouTube, parce qu'en anglais, c'est YouTube, tu vois. Et donc, je disais, ouais, je suis allé sur YouTube, ou sur YouTube, je m'y suis fait là. Mais je disais YouTube, parce que c'est comme ça qu'on le dit à la base. C'est comme... Et on reprochait de le dire trop à l'américaine, alors que c'est un mot made up, quoi. En français, c'est un mot made up, en vrai. C'est un mot anglais qu'on dit en français. Et c'est pareil avec LinkedIn. Je ne sais pas si tu as déjà entendu LinkedIn.
La prononciation des francophones natifs de LinkedIn.
Mais c'est fou. Ils disent ça LinkedIn. Donc là, à un moment, genre, je comprends. Hein, et moi, je suis tout pour amener des mots. Bon, après, ça, c'est un réseau social. Genre, c'est différent. Mais ouais, moi, j'ai du mal avec LinkedIn, tu vois. Moi, je dirais...
Ou LinkedIn.
Ouais, l'autre jour, j'étais sur LinkedIn. Je ne sais pas, moi.
Oui, LinkedIn, moi j'ai entendu récemment. LinkedIn.
LinkedIn, c'est pas mal. Donc voilà, moi j'ai vraiment aucun souci avec ça, mais je comprends que ça puisse faire un peu, pas polémique, mais voilà.
Ça peut agacer. Après, il y a des expressions anglaises qui n'ont pas vraiment l'équivalent. Des expressions anglaises qui n'ont pas vraiment d'équivalent en français. Par exemple, at the end of the day, qui est une expression extraordinaire.
Oui.
Tu dis quoi?
Moi, je crois que je dis à la fin de la journée. Hein. Mais moi, je fais plein d'anglicismes comme ça, où je pense que ça pourrait se dire en français, et en fait, pas du tout. Et où je traduis littéralement. Je passe mon temps à faire ça. Et d'ailleurs, je fais beaucoup d'erreurs en faisant ça aussi. Par exemple, ma fiancée me reprend beaucoup sur le fait que je dise, il y a deux trucs. Il y a des fois, je dis, ils font des drogues. Parce qu'en anglais, c'est you do drugs. Mais en fait, tu fais pas des drogues, tu prends des drogues. Et l'autre chose aussi, je dis beaucoup, je vais prendre une sieste au lieu de I'm gonna take a nap. Non, je vais prendre une sieste au lieu de je vais faire une sieste. Donc il y a plein de trucs comme ça, il y a plein de petites expressions. Mais en vrai, en général, j'ai l'impression qu'on me comprend. Tu vois, j'ai jamais eu de gros problèmes. Alors, par exemple, de dire à la fin de la journée, tu vois, j'ai l'impression que ça se comprend de plus en plus. Donc, I just go with it.
Oui, non, mais t'as raison. Après, par exemple, pour les personnes qui écoutent, la différence entre prendre des drogues et faire des drogues. Faire des drogues, c'est Pablo Escobar. Donc, c'est la fabrication.
C'est ça, et sinon, c'est ça. Donc, c'est une différence de temps de prison, en vrai. Il faut vraiment que je commence à... faire gaffe avec ça.
Oui, donc la personne qui fait des drogues en général est très riche et va plus longtemps à la prison, et celle qui en prend, c'est considéré comme consommateur.
Voilà.
Et c'est comme prendre un verre, qui est aussi exact. Considéré comme l'alcool, qui est aussi considéré comme une drogue. Donc, ta fiancée est francophone native ?
100%.
Vous parlez franglais ou vous parlez 100% français ?
Franglais, d'ailleurs, je vais un peu... Bon, c'est pas vraiment mon intimité, mais un peu je vais rentrer dans le truc. Moi, à la base, je sais pas, depuis que je suis tout petit, j'ai cette idée d'être avec une Française. Je sais pas pourquoi, je pense que, tu vois, juste le fait de pas être en France, je me disais « Ah, les Françaises, machin, trop cool !» Et en fait, elle est alsacienne. Donc, tu vois, il y a un peu le côté allemand et tout. Et moi, au début, disons, quand je la draguais, moi, le grand point que j'essayais de lui faire comprendre, c'était, tu comprends pas, genre, on se met ensemble, ça sera la grande life, t'auras deux nouvelles nationalités, t'auras la française, l'américaine et la mexicaine, tu seras bien. Et j'ai dit, elle a dit, ah ouais, ça c'est pas mal en vrai. Tu vois, un peu en blague.
Ouais, c'est pas mal.
Et du coup, nos enfants, ils seront bilingues. Moi, j'ai toujours voulu que mes enfants soient bilingues. Et moi, je lui ai dit, tes enfants seront pas bilingues. Ils seront trilingues. Et là, c'est comme ça que j'ai eu. C'est comme ça que j'ai eu.
Félicitations. Une France. Et alsacienne, en plus, la cuisine alsacienne est extraordinaire.
Donc,
alsacienne,
vraiment bien choisi. Exactement. Exactement.
Ouh.
Donc, voilà.
Félicitations.
Merci.
Du coup, donc, t'as grandi au Mexique, t'as passé beaucoup de temps aux États-Unis, t'as étudié là-bas, mais à quel moment tu es arrivé en France ?
Alors, je vais te faire un peu un quick recap, mais en gros, donc, je suis né au Mexique du coup en 96, j'ai 27 ans, et quand j'avais 2 ans, et que mes frères et sœurs, on a tous 2 ans d'écart, donc j'avais 2 ans, il avait 4 ans, ma sœur 6 et mon grand frère 8 ans. Et à ce moment-là, on a déménagé à San Francisco. Et on est resté, moi je suis resté là jusqu'à ce que j'avais 17 ans, et après je suis allé à la côte est des États-Unis, dans un village qui s'appelle Savannah, où j'ai fait mes études, du coup là-bas à SCAD, c'est une école d'art. Ça a été une super expérience. Et ouais, après, j'ai fait quelques villes. Je suis allé à Atlanta pour un petit moment. Je suis allé à Los Angeles. Tu vois, je rodais un peu en tant qu'acteur. Tu vois, j'essayais de voir ce qui pourrait m'aller. Et après, en 2020, il y a eu la pandémie. Et je savais pas trop ce que je voulais faire. Il y avait plus d'auditions. Il y avait plus rien. Donc, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais retourner à l'école. Et ça me semblait comme un bon moment d'essayer un autre pays. Et bon, je me considérais quand même français, j'avais jamais vécu en France, donc je m'étais dit, allez, let's go. Et j'ai passé une audition pour intégrer les cours Florent à Paris, et j'ai été pris, et donc en 2020, j'ai déménagé en pensant que j'allais rester 1 an, vraiment, grand max. Et finalement, il se fait que, déjà, j'aimais beaucoup cette ville, J'aime beaucoup la scène du théâtre ici. Et j'ai rencontré ma fiancée aussi. Donc, du coup, tout ça a fait que je suis resté. Je suis très content à Paris. J'aime beaucoup cette ville.
Est-ce que tu peux expliquer en deux mots pour les personnes qui ne connaissent pas le cours Florent ? Qu'est-ce que c'est ?
Oui, tout à fait. Pardon. À chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression que les gens ils connaissent. Donc, du coup, j'oublie que pas tout le monde connaît.
Moi, je connais.
Hein. Oui. Mais les cours Florent, du coup, c'est une école, c'est une école de théâtre. Basé à Paris, mais il y a aussi des campus à Bordeaux, en Belgique, je pense aussi. Et en gros, c'est une école qui a été fondée il y a longtemps maintenant, je crois qu'il y a 30, 40 ans, un truc du genre. Et il y a aussi un cursus de comédie musicale, et c'est le cursus que moi j'ai suivi. Et j'ai intégré la troisième année directement. C'est un cursus de 3 ans, mais puisque j'avais déjà fait des études, ils m'avaient laissé rentrer en troisième année directement, ce qui était hyper cool.
Et
c'était cool. Et donc du coup j'ai fait ça et ça a été une super expérience vraiment. Déjà du fait de retourner à l'école, ça m'a fait trop plaisir. J'adore ça. J'adore apprendre, surtout le théâtre évidemment. Mais j'ai beaucoup aimé l'expérience de vivre l'enseignement du théâtre dans un autre pays qui n'est pas celui dont je viens quoi. Donc, même si j'avais fait du théâtre dans mon lycée et que du coup, tu vois, j'avais quand même appris avec des profs de théâtre français, c'était pas vraiment full on, quoi. Alors que là, c'était vraiment des théâtres parisiens classiques, tu vois. Donc, c'était vraiment hyper intéressant parce que moi, j'avais que connu soit des cours de théâtre ou de cinéma avec des profs vraiment à la US. Et c'est vraiment une autre philosophie. C'est hyper intéressant.
Parce qu'en plus, la sélection au cours Florent, elle est assez stricte, non ? C'est pas facile d'entrer dans ces cours-là.
Ça va. En vrai, ça va. Ça fait des années qu'ils disent ça. Hein. C'est un peu devenu une usine, dans le sens où c'est de moins en moins rigoureux l'entrée. Mais une fois que tu es dedans, si tu t'accroches pas, ça va être un peu compliqué pour toi. Ce qui n'est pas si mal, je pense, parce qu'après, ça donne un peu l'opportunité à tout le monde, mais c'est pas pour tout le monde. Ce que je pense, c'est un peu... Tu vois, c'est important que l'art soit accessible à tout le monde, mais bon, c'est pas pour tout le monde, effectivement. Oui. Et c'était un peu la philosophie de mon école aux États-Unis aussi, où ils avaient un assez grand admission rate, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui auditionnaient ou qui passaient le admission pour rentrer l'avaient, quoi. Mais il y avait aussi beaucoup de gens, à partir de la première ou la deuxième année, qui disaient, en fait, c'est pas pour moi, ou c'est trop dur, ou trop taf, ou ils aiment pas ça, quoi. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Mais il y a un programme qui s'appelle la classe libre. Et ça, c'est un peu plus intense, effectivement. Et en général, il y a que 10 personnes qui sont prises. Il y a la version théâtre, il y a la version comédie musicale. Et j'ai intégré la classe libre comédie musicale, du coup, l'année d'après. Et ça aussi, ça a été une super expérience et c'est en collaboration avec le Théâtre Mogador. Donc, on a passé une année au Théâtre Mogador à danser, chanter, faire des claquettes, des scènes de théâtre. C'était hyper cool. Et du coup, on est une team de 10 hyper soudés. C'est vraiment trop cool.
Waouh, bravo.
Ouais, merci.
Félicitations, franchement, c'est magnifique. Et donc, quand tu reviens à Paris, tu as quel âge ?
Quand je viens à Paris. Du coup.
Oui, quand tu viens à Paris.
Quand je viens à Paris, j'ai 24 ans du coup.
24 ans, et donc c'est la première fois que tu habites vraiment en fait dans ton... C'est aussi ton pays forcément, tu l'as dit.
Oui, c'est ça, c'est bizarre à dire, mais oui. Après, j'ai passé beaucoup d'été ici. Pas tellement à Paris, je dirais, mais à Clermont-Ferrand, bizarrement. On avait une maison là-bas où on passait les étés, et après on l'avait vendue, mais on venait quand même en France juste pour visiter. On faisait pas mal de road trip en France. On aimait beaucoup ça, on voyait la famille. Donc voilà, je passais les étés là, mais ouais, j'avais jamais l'impression que c'était mon pays, quoi. Les Français, c'était pas my people, tu vois, c'était vraiment, c'était autre chose. Donc ouais, c'était bizarre pour moi de me dire que ouais, j'habite en France.
Je comprends. Alors, j'ai un peu un profil différent parce que je suis restée dans le même, continent. Donc, moi, je suis née en France, née à Lille, et j'ai grandi à Bruxelles. Et ma grand-mère habitait.
Quand t'as...
Alors, moi, j'ai grandi à Bruxelles jusqu'à mes 19 ans. Mes 19 ans, je suis partie habiter en Espagne.
Okay.
Et puis après, il y a eu la crise économique en Espagne. Et donc, je suis retournée en Belgique à Bruxelles. Et puis après, j'ai voyagé beaucoup. Mais je me suis installée à Paris en 2016.
D'accord.
Et
là, maintenant, tu es à Paris, du coup ?
Là, je suis à Paris, 100%. Et donc, forcément, bah, quand je suis arrivée à Paris, j'avais déjà des liens avec Paris parce que ma grande sœur habitait à Paris. Donc, quand j'étais adolescente, je passais mes vacances à Paris. Je trouvais ça trop cool. Elle m'emmenait partout. C'était la grande ville, tu vois.
La seule à avoir un accent ou elle aussi?
Ma sœur, on n'a pas le même père. Et donc, on a des disputes, par exemple, par rapport à la prononciation de poulet ou poulet. Briquet, briquet,
mais,
d'ailleurs.
Waouh. Tu sais
qu'est-ce
pas à
que
quel
tu
point
dis,
ça
toi?
me... Mais ok, il faut que tu saches que pour moi, c'est un énorme problème, ça, parce qu'en fait, pendant très longtemps, je pensais pas qu'il y avait de distinction.
Il y
Genre,
en
pour
a.
moi, pour moi, marcher, genre le fait de marcher et je sais pas, genre parler, pour moi, s'il n'y avait pas de différence, c'était parler et marcher. Mais en fait, c'est marcher et parler, n'est-ce pas? Je pense.
Alors, accroche-toi. Donc,
Ok, vas-y.
j'ai fait un test. Parce que, étant donné que ma sœur, donc on a pas le même père et on n'a pas grandi dans les mêmes villes et tout ça. Et donc, moi, j'ai grandi à Bruxelles. Elle a grandi en France. Et donc, on fait des blagues là-dessus. Poulet, poulet, briquet, briquet, lait. Et donc, un
Ouais.
jour, j'ai fait un test avec deux amis. Tous les deux nés à Paris. Et tous les deux, ils ont grandi à Paris et ils ont toujours vécu à Paris. Donc les deux, soi-disant, sont parisiens avec les mêmes backgrounds et tout ça. Hein. Et donc il y en a un qui dit poulet et l'autre il dit poulet.
Ouais, donc en fait, il n'y a pas de...
Non, voilà.
Mais
Donc tu choisis.
après c'est peut-être une question d'où ils viennent leurs parents,
Ben
non?
c'est ça. Et donc il y a donc l'origine des parents, les régions. Dans certaines régions, il y a la même chose. Par exemple, il y a le mot persil ou persil. Tu vois, il y a
Ah
des
ouais, non,
personnes qui vont
moi j'avais jamais
prononcer le
entendu
L ou non.
Percy. Ah, ça, je savais pas.
Bah, y a des personnes qui le disent sans L. Moi, je prononce le L. Toi, tu dis
Ouais, moi
quoi?
aussi. Ouais, Persil.
Il y a la même chose aussi avec ananas, ananas.
Alors, effectivement, je crois qu'il y a le même phénomène aux États-Unis. Je sais pas si je pourrais penser à quelque chose là maintenant. Ah, je pense pas, mais je sais qu'il y a des mots qui peuvent techniquement se prononcer différemment. Ça me frustre que je peux pas penser à un truc là pour le podcast,
Ça va
mais
venir après quand on va
peut-être,
terminer, tu
peut-être.
vas voir.
C'est ça vraiment. Mais ouais, effectivement, moi je vraiment je savais pas. Est-ce que ces personnes-là qui disent poulet, poulet, est-ce que dépendant du mot, ça change? Genre par exemple, est-ce qu'il dit poulet, mais il dit marché ou pas?
Alors, celui qui dit poulet, il va dire... Non, je pense qu'il prononce tous les et.
Ah
Attends.
ouais?
Il y a aussi la différence, tu sais, alors là, on va rentrer dans la complexité de la langue, la différence entre, par exemple, le conditionnel et le futur. Donc, tu vois, par exemple, j'aimerais ou j'aimerais, pour le conditionnel, tu rajoutes un
Ah,
S, bah,
exactement. Bah, c'est sur ça qu'on me reprenait. Et quand je chantais des chansons, c'était surtout pour le chant, et que je finissais, que j'avais un gros belt et je devais faire genre en général, si c'était pas le bon et. Ça frustrait mes profs, mais vraiment. Et ils me reprenaient sur ça, ils se disaient, c'est été, pas été! Parce que c'est pas le même mot,
Bah,
été
ouais.
et été, quoi.
Et bah, ça dépend de l'origine de la personne qui t'enseigne, par exemple, la
Ah,
chanson.
peut-être.
Et donc, je te
D'ailleurs,
dis, les deux sont...
j'ai pensé à un mot vite fait. Il y a
Vas-y.
data et data. Et je sais que ça dépend de plusieurs choses. Il y a la région d'où tu viens, mais je crois qu'il y a des gens qui juste préfèrent data or data. Et il y a aussi mischievous et mischievous. Ça aussi, j'ai appris. Mais bon, continue du coup. Il fallait juste que je le dise maintenant que j'y avais pensé. Donc,
Non, mais c'est très bien, mais c'est comme schedule.
Schedule,
Schedule.
exact. Schedule. Mais ça, tu
Oui.
vois, je crois que c'est vraiment propre à les États-Unis versus l'Angleterre, je pense.
Mais
Je
tu vois,
pense qu'il n'y a
c'est
personne aux
différent.
États-Unis qui dit schedule.
Non, je crois pas. Hein. Enfin, moi, je suis pas certaine. Mais donc, tu vois, ces différences de prononciation entre, par exemple, l'anglais des États-Unis et l'anglais d'Angleterre ou même de Nouvelle-Zélande, d'Australie, il y a la même chose au sein de la francophonie.
Ouais.
Le souci en France, surtout à Paris, c'est qu'ils pensent qu'ils ont la version correcte. Et
Ah
donc,
ouais.
c'est le français standardisé. Et donc, poulet, poulet, il y a certaines personnes qui ne vont pas être d'accord. Donc, par exemple, hier, j'étais au marché. Toi, tu vas dire quoi?
Hier, j'étais au marché.
J'étais au marché, t'as dit, hein?
Ouais, marché.
Marché. Bah, moi, j'ai aussi marché. Donc, tu vois?
Après, le truc aussi en France qui est intéressant, c'est que je crois que dans aucun autre pays, les gens deviennent aussi, bon, c'est peut-être un grand mot, mais deviennent aussi agressifs par rapport à leurs différences de langue. Genre, dans aucun autre pays, est-ce que j'ai vu un tel débat aussi intense que le débat de pain au chocolat versus chocolatine? Genre, ça n'existe nulle part dans le monde où les gens, genre, presque, ils deviennent vénères quand on dit celui qu'ils ne disent pas eux. Et c'est fou. Et en soi, je trouve ça assez cool parce que ça veut dire que, bah, tu vois, la langue a quand même une certaine importance, alors qu'aux États-Unis, vraiment, je pense que par rapport à ça, pff, ils s'en foutent. Mais ouais, c'est fou comment les Français, il y a de la passion, quoi. Il y a vraiment, genre, c'est un débat en ligne qui fait vraiment, vraiment polémique, je trouve.
Ben c'est génial pour nous parce que du coup on peut créer du contenu là-dessus et on sait que ça
C'est
va faire des
ça.
commentaires.
100%, 100%, on adore ça.
C'est la même chose avec les recettes de cuisine, hein. Donc par
C'est-à-dire.
exemple, si tu en fonction de ta recette du bœuf bourguignon, si tu la fais pas comme celle de ton voisin, ça peut
Ah ouais?
générer des débats. Ah oui, toucher des recettes de cuisine aussi, c'est très très problématique. Si tu la fais pas comme la base, par exemple la tartiflette, il y a
Ah
certaines personnes
ouais.
qui disent que tu vas pas rajouter des oignons, d'autres qui disent que tu dois rajouter des oignons. Enfin bref,
Mais bon, ouais,
la
mais ça
quiche
m'étonne pas.
Lorraine.
La culture de la gastronomie en France aussi, c'est pareil que la culture de la langue, quoi.
Faudrait que tu demandes à ta fiancée la recette de la quiche Lorraine avec ou sans oignons. Je pense qu'elle aura sans doute un avis là-dessus.
Bah attends, je vais lui demander rapidement. Zoé,
Tout de suite.
allez, en live. La quiche
En
Lorraine,
live.
avec ou sans oignon? Ah.
Oh, je dirais ça.
Elle dirait sans. On a du
Ah
sang
ouais.
ici. Toi, c'est avec?
Ok. Moi, je l'aime avec ou sans, mais je sais qu'il y a des personnes qui disent qu'à la base, c'est sans. Mais je
Ah, donc
pense que.
c'est plutôt une question de comment elle est censée être. C'est ça?
Ouais.
Ouais.
Et il y a
Après,
des personnes
c'est une
qui
question de.
disent.
Ouais, il y a des gens qui n'aiment pas l'oignon et voilà, quoi.
Ouais. Bon, oui, après. Tous les goûts sont dans la nature. Alors, Loïc, donc tu arrives
Oui.
à Paris, tu fais tes études, tous tes projets avec la comédie musicale, donc tu es sélectionné parmi 10 personnes seulement, c'est extraordinaire.
Merci, oui, c'est cool.
À quel moment, donc dans ton projet de comédie et tout ça, de devenir acteur, tu as commencé les réseaux sociaux? C'était en même temps? Parce que tu dis que tu es youtubeur. YouTube ou
Oui.
YouTube maintenant?
Apparemment,
J'hésite.
c'est YouTuber.
Youtubeur.
Ouais, ça y est, c'est bien engrainé dans mon cerveau là. À quel moment? Bah écoute, j'ai commencé sur TikTok à la base. Tu vois, parce qu'à la base, c'était là où il fallait faire le format court, quoi. C'était vraiment l'endroit. Et moi, ce qui m'avait un peu interpellé ou qui m'avait un peu attiré à TikTok par rapport à YouTube, c'est que, bah, en termes de production, c'était beaucoup plus spontané et facile. Et tu vois, tant que tu avais ta blague, tu pouvais la mettre. Il y avait pas ce truc qui. Tu vois, et maintenant que je suis sur YouTube, je m'en rends compte que c'est pas tellement le cas, mais c'était une idée qu'on s'était peut-être fait, nous. Mais il n'y a pas ce problème de, tu vois, il faut être quali, faut que l'image elle soit bonne, faut que le son il soit bon. Genre, si tu as quelque chose à dire, en fait, tu peux le mettre. Et si les gens ils veulent voir ou s'ils trouvent ça drôle, ils vont le faire. Et en fait, je crois que TikTok, pour ça a été vraiment super pour beaucoup de créateurs. Mais moi, à la base, c'était vraiment, disons, spontané, hein, c'est le mot à dire. C'était en pleine pandémie. C'était en 2020, du coup, j'avais redéménagé chez mes parents parce que je travaillais à La Durée à Los Angeles à l'époque. C'était mon job alimentaire en tant qu'acteur. Il fallait bien que je paye le loyer. Et donc, je travaillais en tant que serveur à La Durée et bah, il y a la pandémie, donc tout s'est fermé. Et j'ai décidé de rentrer chez moi parce que rien ne se passait et je serais peut-être resté s'il y avait des projets de théâtre, mais il n'y en avait pas. Donc ça servait vraiment à rien que je reste là à dépenser de l'argent que je n'avais pas à l'époque. Et donc je suis allé chez mes parents et j'avais très peu de choses à faire. J'avais pas de job, j'avais rien. J'avais un petit salaire du gouvernement, ce qui était cool. Donc du coup, je pouvais quand même me payer à manger, ce qui était sympa. Et finalement, bah, j'ai commencé à me mettre sur TikTok un peu malgré moi. Je voyais que tout le monde était dessus. Je me disais, ouais, je sais pas si c'est trop pour moi ça, mais finalement, bah, comme tout le monde, je suis devenu un peu accro. Et en fait, le truc qui m'a donné le plus envie, c'était de voir tous ces gens qui utilisaient des sons en fait pour créer leurs vidéos. Et je me disais, bah, en vrai, ça demande pas trop d'originalité. Tu vois, tu te mets devant ta cam, tu mets le son et juste tu t'amuses. Et c'était vraiment juste c'est un peu comme du karaoké à la fin, tu vois. Tu fais un peu ta scène en mode karaoké, tu mets une petite caption que tu trouves drôle et puis voilà. Et au début, c'était vraiment juste pour, bah, pour m'amuser, pour faire quelque chose. Et après, c'était pour faire rire les potes. Et après, c'est un peu commencé à fonctionner. Et au début, c'était vraiment des vidéos qui maintenant, pas que j'ai honte, mais c'était des vidéos qui valent rien, quoi. C'est vraiment juste, et je crois que j'ai une vidéo qui a percé, avec ces sons-là qui n'ont rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et ça m'a un peu donné un peu le goût du truc de « Ah bah, peut-être que les gens, ils veulent bien me voir. » Et ça, je t'avoue que ça m'a un peu, ouais, un peu donné un thrill que j'ai voulu bah, poursuivre. Et, parce que j'avais rien d'autre, quoi. Vraiment, j'avais rien d'autre. Et après, bizarrement, ou je sais pas, c'était complètement par hasard, j'ai un peu trouvé ma niche assez rapidement parce que j'ai fait, je crois, une vidéo sur la langue française qui, à la base, était un truc sur le fait que vers, c'est une phrase. Tu vois,
ouais.
Où tu utilises le même mot pour faire une phrase et que ça, c'était une phrase dite techniquement correcte en français. Et cette vidéo, elle avait percé. Je crois qu'elle avait genre atteint les 4 millions en un jour. Et moi, à l'époque, ça m'avait vraiment genre...
4 millions.
Ouais, ouais. Merci. Et donc, du coup... bah du coup je me suis dit je crois que je vais continuer à essayer un peu de rester dans cette niche et depuis ça reste quoi les gens ils adorent ça soit parce que juste ils trouvent ça drôle parce que le fait est que c'est une situational comedy ou juste c'est des gens qui se comprennent pas entre eux et c'est toujours drôle ça c'est une formule classique sitcom voilà
what is this
exact et il y a aussi l'autre aspect de la vidéo qui est que bah les gens qui essaient d'apprendre une langue qui se sentent complètement démunis face à ça, et bah, ils se sentent vus, quoi. Ils se disent, ah bah, je suis pas le seul à trouver que c'est juste impossible. Et en fait, ce que les gens savent pas trop de moi, c'est que je suis pas du tout. En fait, les gens, ils pensent que j'ai une capacité avec les langues qu'en fait, je n'ai pas du tout. Je parle trois langues parce que j'ai vécu avec ces trois langues que je parlais en espagnol avec ma nounou, que je parlais en français avec mes parents à l'école et que je parlais en anglais en général. Mais j'ai beaucoup de mal avec les langues. J'ai vraiment beaucoup de mal avec les langues et du coup j'arrive quand même à comprendre ce que ces gens y vivent et puisque j'ai été face à ces deux langues et que j'ai vécu ma vie en voyant un peu les inconsistencies disons bon, les inconsistances et les choses qui n'allaient pas du tout et les choses qui moi me perturbaient beaucoup bah maintenant je peux en faire des blagues quoi.
Voilà. Moi, j'adore tes vidéos, elles me font beaucoup trop rire. La plupart de mes élèves, de toute façon, te suivent, ou les personnes qui me suivent te suivent aussi, parce que voilà, tu, comme tu dis, tu arrives à trouver aussi la folie dans la grammaire française, mais pas que, il y a aussi l'espagnol et l'anglais. Donc, la première vidéo, c'était celle qui a eu le plus grand succès, c'est Vert.
Ouais, la première qui a percé, ouais, c'était celle-là, je pense.
Et après, la deuxième, ton.
Je sais pas si je pourrais te dire. Bah, en vrai, sur TikTok, j'ai eu pas mal de avec plusieurs millions. Genre, je crois que là, ma vidéo le plus vue, elle est sur YouTube, je pense. Elle est à 70 millions. C'est une vidéo de...
70 millions.
Ouais, c'est de la folie. Ouais. Mais c'est... ouais, je crois que c'est une vidéo similaire où je fais une phrase un peu... Je pourrais même pas te dire laquelle c'est. Mais
une autre
vidéo
après.
Qui a passé les 50 millions, c'était... une qui n'a rien à voir, c'était la création du R dans les langues différentes. c'est là où, et je crois que French, il prend un fromage qui est trop grand et il commence à choke, quoi, comment dire, à s'étrangler.
À s'étouffer.
À s'étouffer, ouais. et donc, il crée le R parce qu'il s'étouffe, quoi. Et c'est comme ça que lui, il crée le R. Et ça, c'est le R français que les gens ont du mal à prononcer.
La bête noire de certains élèves, le R.
Ouais, vraiment.
En plus, c'est pas facile quand ça n'existe pas dans la langue maternelle. Par exemple, les personnes qui parlent espagnol.
Ouais.
Très compliqué pour eux. Le R. Ouais. Je dis non, c'est pas la langue qui touche les dents, c'est derrière, c'est dans le fond.
Ouais, vraiment. Mais et en plus, c'est bizarre parce que c'est des muscles dans ta bouche qui ne se sont pas développés du coup. Et moi, j'ai très peu de vocabulaire en espagnol. Par contre, les gens, quand ils m'entendent parler espagnol, ils pensent que je suis un Mexicain pur et dur. Parce que bah, déjà, j'ai un accent très, très mexicain, très prononcé. Mais aussi parce que je le parlais assez quand j'étais petit pour avoir dans ma bouche la possibilité d'avoir cet accent. Donc, c'est vraiment si tu veux apprendre une langue, la meilleure chose à faire, c'est de retourner dans le temps. Mais c'est aussi possible, hein. Mais c'est vrai que quand on est enfant, c'est fou à quel point on est une éponge.
Incroyable. Mmh. Oui, et puis tu absorbes les accents. C'est comme Paul Taylor avec son français. Hein.
Ah oui, oui, oui.
Lui aussi, pas d'accent. Ouais.
D'ailleurs, j'avais fait un podcast avec Paul à l'époque.
Vous avez fait aussi une vidéo, non, sur YouTube?
Ouais, c'était un podcast filmé en vrai.
Ah, ouais. Ok. Plus elle m'avait fait rire, cette vidéo, elle était drôle.
Ouais, elle est cool. Il est très, très drôle, ce mec.
Paul Taylor, qui est aussi sur ma liste. Hein.
Ouais, je comprends. He's a must-have.
Ben oui, exactement. J'ai eu Sébastien Marx.
Ah, très, très drôle. Très, très drôle, ce mec. Waouh.
Incroyable.
Ouais, et genre, c'est dur de faire du stand-up, mais d'en faire dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle, c'est vraiment... Je sais pas comment il fait.
Hyper talentueux. Et puis ces stand-up, ces spectacles sont géniaux. Enfin, tu pleures du début jusqu'à la fin. Et c'est fin, c'est vrai et génial. Donc, faire des blagues en français, sur les Français, pour les Français, quand le français n'est pas ta langue maternelle.
C'est ouf. Ouf. C'est ouf. C'est vraiment... faut être fort.
Un génie. Et... Quels sont tes prochains projets professionnels? Est-ce que tu vas continuer YouTube, la comédie? Tu en es où aujourd'hui? Après tous ces booms, ces millions de vues sur Internet.
J'ai plusieurs projets en vrai. Je suis vraiment sur deux fronts. L'année prochaine, je suis dans une création d'une comédie musicale qui est basée sur l'œuvre de Monte Cristo, qui va se jouer au Folies Bergères.
Donc ça, en ça français va
être... Ouais, en français. C'est une comédie musicale. Mmh. Ça va être... J'ai hâte de faire ça, en vrai. J'ai aussi... J'ai travaillé pendant un moment à Disney dans leur comédie musicale. Ils ont fait Le Roi Lion. Mais je vais commencer un spectacle qui s'appelle Mickey le Magicien à partir de janvier prochain, où je vais interpréter le génie. Donc, ils vont peindre en bleu. Je vais sortir, je vais faire Never Had a Friend Like Me et je ressors. C'est incroyable. C'est vraiment un truc de ouf. C'est super fun et je suis aussi dans le processus, disons, d'essayer de réouvrir une pièce que j'avais fait avec ma fiancée Zoé qui s'appelle Séisme, que j'avais fait à la base en anglais dans mon université en 2017, et j'avais tellement aimé cette pièce qu'en arrivant ici je l'avais proposé à Zoé en tant que projet de fin d'études, et on avait trouvé une super trad. Et donc du coup on l'avait mis en scène dans un théâtre à Neuilly, et là le plan c'est de le refaire. Donc du coup c'est un peu ça, et de l'autre côté, sur le plan YouTube, disons, créateur de contenu, là je me lance un peu dans le format long. J'ai signé avec une boîte de prod qui va m'aider un peu à tout faire, en vrai, à écrire, à produire, à réaliser. Et j'ai hâte, parce que ça donne une nouvelle vie à la création, quoi. C'est un autre format, donc du coup ça me redonne un peu le boost que j'avais au début, parce que en vrai c'est ça le truc qui est le plus dur en tant que créateur de contenu, c'est le burn-out et la lassitude, quoi. Ouais, vraiment.
Les personnes se rendent pas compte, hein, de la difficulté de la création de contenu, parce que tu dois créer tout le temps, parce que t'as l'algorithme, les commentaires.
Ouais, vraiment. Mais il faut que tu restes assez original et entertaining, pas que pour que ça ait des vues, mais pour que toi, en tant qu'individuel, tu dis ouais, je suis content avec ça. Et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi vraiment, genre, il y a un truc de que si je trouve pas ça de assez bonne qualité dans mes standards vraiment personnels, j'ai même pas envie de commencer, en fait, parce que je me dis ouais, je sais pas, c'est une blague un peu minable et ça pourrait avoir plein de vues, mais je sais pas si j'ai envie de le faire. Et donc du coup je rentre dans ce truc où il faut que ce soit d'une certaine qualité pour que je veuille le faire, et si je pense à rien, du coup je fais rien, et ça me met dans un cycle vicieux de je fais rien. Et faut que je me dépasse aussi un peu de ça, je pense.
Je vais te poser une question peut-être un peu personnelle, mais est-ce que tu as déjà fait des pauses dans la création de contenu?
Oui, mais pas, c'était pas un truc planifié, c'était en fait pendant très longtemps. Et maintenant, je me stresse plus par rapport à ça, bizarrement. Mais pendant très longtemps, en fait, je me disais, là, il n'y a rien qui me va et c'est pas grave, ça va me revenir. Et en fait, je me mettais pas trop de pression de me dire qu'il fallait que je pose beaucoup, machin. Parce qu'en général, quand je me remettais dedans et que j'avais de l'inspi et que je me sentais à fond dans le projet, il y avait toujours un truc de que quand je revenais et que je postais, ça fonctionnait. Et en fait, pour moi, ça avait un sens de bah, que de poster quand ça fonctionnait et pas de me forcer à créer du contenu juste pour créer du contenu. Surtout parce que pendant très longtemps, c'était pas mon truc principal. J'étais à fond dans, tu vois, dans le théâtre et passer des castings, et ça, c'était vraiment mon ambition primaire, disons. Et après, le truc secondaire, c'était de me dire, bah, j'adore faire des vidéos parce que ça fait rire et que ça fonctionne. Mais je mettais pas trop de la pression sur ça comme d'autres créateurs pourraient. J'ai juste eu beaucoup de chance avec ça.
Enfin, moi, je te pose la question parce que moi-même, j'ai fait une pause sur Instagram. Pendant un an, j'ai rien posté.
Ah ouais. Et je pense que c'est bien, en vrai, de s'écouter, de savoir ce qui est bien pour toi.
Oui, j'en pouvais plus, en fait. C'était trop. Et puis, c'était aussi... pendant les confinements, ça a explosé. Mais j'avais aussi attiré énormément de personnes qui pensaient que j'étais disponible. Donc, j'ai eu des demandes de correction de devoirs, de personnes qui voulaient avoir des cours de français gratuitement. Quand je disais non, j'étais la méchante. Je dis, mais j'ai Instagram, j'ai un podcast que je paye moi-même, enfin, je finance parce que, vu que je suis hyper exigeante, la qualité de l'audio, il y a quelqu'un qui est derrière et qui réécoute l'épisode et tout ça. Et à un moment, je dis, il faut que je choisisse, et j'ai préféré me concentrer sur le podcast. Et grâce à ce podcast, tu es avec moi aujourd'hui.
Oui. Et donc pendant cette année, tu t'as senti que ça t'a redonné un sens, ou c'était bien pour toi?
Oui, il fallait en fait, parce que je donnais des cours aussi. Donc, je donnais des cours, il y avait des cours intensifs et ça allait trop dans tous les sens. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de centres de formation, enfin même beaucoup de créateurs de contenu, en fait, qui ont eu un boom incroyable pendant les confinements. Donc, 2020-2021, ça a été extraordinaire. J'ai fait les plus gros chiffres d'affaires de toute mon entreprise.
Ah ouais, trop bien.
J'avais plein de profs, plein de clients, et à un moment, j'ai dit, c'est trop. Je suis toute seule. J'avais 28 professeurs en dessous de moi à gérer aussi. Ouais. Je reviens sur ton commentaire. C'est des professeurs de français. La plupart d'entre elles sont françaises. Donc, travailler avec des Français aussi, c'est un défi.
Je comprends. Je vais rien dire sur ça, mais je comprends.
Ouais, mais donc moi, je j'étais pas prête, en fait, parce que comme j'ai grandi à Bruxelles et que le début de ma carrière c'était en Espagne et en Belgique, je travaillais d'une autre manière, pas du tout la manière française. Donc chaque pays, les gens travaillent d'une certaine manière, et là,
tout à fait.
J'ai eu un type de choc culturel. Je suis devenue manager d'une trop grosse équipe, trop rapidement, avec des manières de travailler qui étaient vraiment hyper différentes. Et ça a été trop. Donc il a fallu, j'ai dit, voilà, je vais arrêter ce qui me demande plus de temps et qui me rapporte le moins d'argent. Bah, Instagram, c'est du contenu gratuit, finalement.
Ouais, tout à fait, je comprends.
Du coup, bah là, je suis de retour, tout doucement, avec du contenu qui me correspond. Et je ne réponds pas aux messages en privé, par exemple, sur Instagram. Je réponds que à mes clients. Donc, les clients payants de mon école, eux, je leur réponds. Et sinon, les autres, je ne réponds pas, ou j'envoie le lien de mon école. Je dis, voilà, si tu veux plus d'informations.
Ouais, ça aussi, c'est hyper dur. Moi, bizarrement, pas bizarrement, je vais te dire pourquoi je dis bizarrement, mais ce que j'ai trouvé qui me sort le plus et qui m'aide le plus dans ces moments de un peu de, bah, disons, de lassitude, c'est de m'entourer d'autres créateurs. Et je dis bizarrement, du coup, parce que j'aurais pensé que ça m'aurait donné un peu, je sais pas, un truc de se comparer. Tu sais, c'est comme quand t'es avec l'élève parfait, que lui dit, ouais, je suis dégoûté, j'ai eu un 19, et toi à côté, t'es content avec ton 12, et tu dis, bah, va te faire foutre, en fait. Je pensais que ça allait être un peu le même truc, où j'allais voir tous ces créateurs qui, ça se passait hyper bien pour eux. Et donc, du coup, moi, j'allais me comparer, j'allais me dire, bah, je vaux rien à côté d'eux. Et donc, du coup, ça me donne encore moins envie de le faire. Mais en fait, j'ai vu que, bah, le truc d'être un créateur de contenu, c'est que tout le monde est tellement différent et fait du contenu tellement différent et a une expérience tellement différente qu'au final, bah, tout le monde se retrouve un peu dans le truc de, bah, tout le monde, en fait, à un moment, a eu un burn-out et tout le monde a, bah, comme là, on vient de voir entre nous, tu vois, tout le monde a plus ou moins la même expérience par rapport à ça et tu vois la quantité de travail que ça demande, non seulement en termes de temps, mais aussi psychologiquement. Tu vois, de sans vraiment le savoir, être affecté par les vues et les machins et les likes et les commentaires, au final, d'être avec d'autres créateurs qui ont cette même expérience, ça m'a grave donné envie de me relancer dans le truc et ça m'inspire aussi beaucoup de voir les projets qu'ils ont et les trucs qui les épanouissent et tout ça. Donc en vrai, ça m'a beaucoup aidé, ça.
Et oui, comme tu dis, en plus, le truc du burn-out, tout le monde l'a vécu, hein. On pense que c'est juste ça. Un ou deux. En fait, non, c'est pas que nous.
Vraiment,
c'est tout le monde.
Vraiment,
tout le monde est passé par là.
Même Charlie D'Amelio, elle a sûrement vécu ça à un moment. Donc,
Donc, pétage de plomb de création de contenu. Ouais. Est-ce que ça t'arrive de recycler des vidéos que tu as déjà postées, que tu recycles et que tu repostes plus tard?
Oui. En fait, j'ai eu un truc bizarre aussi où, puisque j'ai commencé sur TikTok et après je m'étais mis sur YouTube et pendant très longtemps je mettais pas mes vidéos sur Instagram. En fait, il y a un moment un peu bizarre de croisement où je savais pas trop ce que j'avais mis sur quel réseau, qui avait vu quoi. Des fois, je me rendais compte que les gens qui me suivaient que sur Instagram, ils avaient jamais vu une certaine vidéo. Et donc, il y a un moment où je me disais, en vrai, je m'en fous un peu. Tant que c'est pas une vidéo que j'ai postée il y a 3 semaines, s'il y a un truc, je me souviens d'une vidéo et je me dis, ah bah tu sais quoi, j'avais 500 000 abonnés à l'époque, maintenant j'en ai le double. Je me dis, bah du coup ces personnes, ils ont sûrement pas vu cette vidéo et je m'en fous.
Exactement.
Et il y a sûrement beaucoup des gens qui me suivaient à l'époque qui l'ont peut-être pas vu dans leur feed. Je m'en fous. En vrai, tant qu'en scrollant sur ma page, t'as pas l'impression qu'il y avait 10 000 doubles. Ça m'arrive de temps en temps de remettre des vidéos, je m'en fous un peu en vrai.
Moi je reposte, hein. Je reposte les mêmes. Moi je recycle absolument tout, sauf mon podcast, je reposte pas, mais sur Instagram, LinkedIn aussi, LinkedIn. Sur LinkedIn, je reposte, je recycle absolument tout. Et juste le contenu dans ma newsletter en français, là c'est du contenu exclusif. Et tout le reste, je recycle absolument tout. Parfois je change un petit mot ou tout ça, mais. Le recyclage, repurpose, c'est indispensable pour pas de péter les plombs. Loïc, j'ai une question, c'est peut-être un détail pour vous, mais la veste de tes vidéos depuis le début, non.
Tu vous vois pas depuis le début, hein.
Non, non, c'était pour la chanson, tu sais.
Oui. Je veux juste m'assurer. Et dis-moi.
La veste de tes vidéos, elle vient d'où?
C'est une très bonne question. Je crois que c'est ma top question, d'ailleurs. Alors, pour te donner un peu toute l'histoire, mais sans trop rentrer en détail, je suis allé à un concert de rap d'un de mes potes à Los Angeles. Et c'est vraiment au tout début de la pandémie. Je m'en souviens parce que c'était le jour où on avait appris que Tom Hanks avait eu le Covid. Et c'était tout un truc parce que, oh my God, Tom Hanks a eu le Covid, ça va vraiment être la fin du monde, blablabla. Et je suis allé à ce concert et c'était trop cool. C'était mon pote qui chantait et il y avait genre un backroom trop bizarre où il y avait des gens qui vendaient des petits trucs comme ça. Et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Christian, qui vendait plein de trucs en jean. Et j'ai trouvé ça tellement chelou. Et vraiment, il y avait plein de trucs trop bizarres, mais en même temps, un peu cool et stylé. Et j'ai mis la veste que je porte maintenant, et je l'ai mise. Et je me suis regardé dans le miroir, et je me suis dit, en vrai, c'est hyper chelou, mais il y a un truc, et je kiffe. Et c'était vraiment un truc de feeling. Et je m'étais dit, j'achète jamais des trucs un peu bizarres. Genre, moi, je suis hyper classique dans mon style, surtout à l'époque. J'étais très, parce que je sais pas comment m'habiller, donc je mettais juste des jeans et des t-shirts et des hoodies. Genre, c'était vraiment le seul truc que je pensais m'aller. Et je m'étais dit, j'achète jamais des trucs un peu bizarres. Et donc là, je suis vraiment allé à l'extrême où j'ai acheté le truc que je trouvais vraiment, qui n'avait rien à voir avec moi. Mais je me sentais quand même bien dedans. Et quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je m'étais dit, bah vas-y, je vais mettre le truc que je trouve un peu bizarre parce que, bah demain, ça va peut-être être ma marque de fabrique. Mais aussi, si les gens restent pas pour la blague, au moins ils vont rester une seconde de plus pour dire mais qu'est-ce qu'ils portent? Genre c'est trop chelou, ça va où cette vidéo? Et peut-être pour l'algorithme, ça fera quelque chose, je sais pas. Et donc, et à la base, il faut que tu saches qu'à la base, c'est encore plus bizarre. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais peut-être la mettre en story un de ces jours. À la base, il y avait aussi un pantalon Batman qui allait avec la coupe. Donc c'était, pour moi, c'est vraiment tout. Et après, quand je m'étais rendu compte que la majorité de mes vidéos, c'était le torse, je m'étais dit, bah, la flemme de mettre le truc Batman à chaque fois.
Ah, attends, parce que tu l'as, le pantalon?
Je crois que je l'ai encore, ouais.
Oh mon Dieu, mais voilà. Oui.
Donc voilà toute l'histoire. Ça n'a rien à voir, il n'y a aucun rapport. C'était vraiment juste un feeling. Et en vrai, ça a fonctionné parce que je sais qu'il y a plein de gens, ils disent, ouais, le mec, il fait des vidéos de langue, et ils disent, ouais, peut-être. Et il a toujours un truc en jean, là. Et là, ah oui, je le connais. Donc en vrai, c'est pas si déconnant comme idée.
Non, non, c'est génial comme idée. Tu sais, moi, par exemple, mes vidéos, je mets toujours le même t-shirt. Mm-hmm. Alors, on m'a posé la question, j'ai dit, pourquoi tu mets le même t-shirt? J'ai dit, parce qu'en fait, parfois, je voyage, et parfois, je sais pas où je suis, et je veux que ce soit toujours uniforme, homogène. Et en fait, bah, toi, ta veste, c'est pareil. Mais ta veste, elle est vraiment extraordinaire. Est-ce que le vendeur, il sait que cette veste a eu autant de vues?
Mais bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'était, on se parlait beaucoup au début, on disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et lui, il me disait souvent, mais pourquoi tu le mets? Et moi, je lui dis, mec, t'inquiète, ça fonctionne.
Non, mais cette veste, elle est tellement unique. En plus, voilà, c'est ton branding, ça fonctionne super bien, on te reconnaît à la seconde.
Ouais. Après, est-ce qu'elle va rester pour toujours? Je ne sais pas. D'ailleurs, c'est une question que je me pose très souvent, de savoir si peut-être un jour on va s'en défaire, mais pour l'instant, elle reste.
T'as déjà fait des vidéos sans la veste et des personnes t'ont fait la remarque?
Oui, c'est sûr. En général, quand j'ai fait ça, c'était des vidéos qui étaient pas hors sujet, mais différentes. Et c'est pour ça que je me demande si... En fait, pour te dire, là, ce que j'ai un peu en tête pour mes vidéos long format, c'est de prendre un peu le même concept de les langues n'ont qu'un sens, mais un truc un peu plus large, de trouver d'autres thèmes qui... de choses qui n'ont rien à voir. Donc, par exemple, ça pourrait être une vidéo sur le corps humain makes no sense ou fireworks makes no sense. Je sais pas, je te dis n'importe quoi, mais de prendre la même approche, de prendre des trucs sur lesquels, en fait, les gens y pensent juste, on n'y pense pas parce que ça fait partie de notre quotidien, et de rentrer un peu plus en détail de, ouais, mais en fait, on a accepté ça comme étant la chose la plus logique, mais en fait, ça l'est pas du tout. Et c'est un peu ça l'idée que j'ai. Et donc, peut-être, en rentrant dans d'autres choses qui ne sont pas la langue, peut-être, on aura de moins en moins la veste. À voir.
La veste.
Voilà.
OK. Loïc, avant de te laisser partir, j'ai une dernière question. C'est toujours la même question pour mes invités. Pour une personne qui a envie d'apprendre le français ou qui apprend le français et qui galère,
oui.
Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner?
Absolument. J'en ai plusieurs même. Je crois que celle que je donne le plus, c'est... Attends. La vraie réponse, c'est faut prendre des cours avec Yasmine, évidemment.
Boum.
Mais en vrai, le truc que je dis le plus, c'est il faut consommer la langue. Dans le sens où il faut regarder des films en français, il faut écouter de la musique en français. Avec des sous-titres, évidemment. Mais en fait, regarder des films et des séries, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et il y en a qui font ça à longueur de journée. Donc, pourquoi ne pas, comme on dit en anglais, « kill two birds with one stone ». Je crois d'ailleurs qu'il y a une expression en français qui connaît.
Faire d'une pierre deux coups.
Oui, exactement. du coup, en regardant des séries, et il y en a, des super séries, genre par exemple 10%, c'est une de mes séries françaises préférées, qui s'appelle « Call My Agent ». Tu regardes ça en français avec des sous-titres en anglais, tu consommes la langue française, et je pense que c'est vraiment la meilleure solution. L'autre solution qui n'est pas accessible à tout le monde, mais qui fonctionne le mieux, je pense, c'est de passer du temps dans des pays ou des régions francophones et de un peu se forcer à passer du temps avec des gens qui ne parlent que le français et de trouver des moyens de communiquer avec ces gens. Et naturellement, en fait, tu vas pick up sur des trucs et tu vas être dans des situations où ton cerveau va pouvoir absorber la langue mieux parce qu'elle a été forcée à non seulement l'utiliser mais aussi à la comprendre contextuellement, et on est des hunter-gatherer brains, je sais pas si tu sais ça, mais on arrive mieux à apprendre des choses en étant dans des situations où il faut qu'on apprenne ces choses-là et il faut qu'on retienne ces informations-là dans une situation géographique, disons. Donc si t'es dans un contexte où il faut que je communique à cette personne que je veux du pain et que tu apprends dans ce moment-là que le mot, c'est pain et pas bread, à chaque fois que tu auras besoin de pain, tu vas repenser, ah oui, à ce moment-là, quand j'étais dans la boulangerie en France et que j'avais besoin de demander, machin. Donc, c'est pour ça que moi, vraiment, la meilleure manière d'apprendre une langue, c'est vraiment de lancer dans un monde où on ne parle que cette langue. Mais si tu n'as pas les moyens, regarde les films français.
Regardez les films français, magnifique. Loïc, pour les personnes qui veulent continuer cette conversation avec toi, qui veulent te suivre dans tous tes projets de comédie musicale, Mickey le magicien, ou alors aussi tous ces contenus que tu vas créer pour YouTube, où est-ce qu'ils peuvent te suivre et te trouver?
Ils peuvent me trouver, moi je suis très basique, hein, c'est mon nom. Il faut juste chercher mon nom, Loïc Suberville. Et normalement tu me trouveras sur soit Instagram, YouTube, TikTok, en vrai, s'ils veulent l'actualité de ma vie et tout ça, Instagram, je pense que c'est le meilleur bet. Mais pour tout ce qui est contenu et tout ça, n'importe quel réseau fonctionne.
Magnifique, merci beaucoup. Alors, félicitations pour tout ce que tu as fait. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est très, très, très beau.
Félicitations à toi. T'avais...
Hein. Merci, tu avais 1 million sur Instagram.
Ouais.
Et donc, je te souhaite 2 millions en 2024.
C'est très gentil. On fera tout ce qu'on peut.
Merci. Bon, merci beaucoup d'être venu. Franchement, ça faisait très longtemps que je voulais t'avoir. C'est merci.
tu veux continuer cette conversation avec moi, je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!